profiter, mais avoir dans l'autre l'image de Dieu. Chaque homme porte en lui une étincelle divine, puisque créée à l'image de Dieu.
Écoutez, ça peut être dit comme ça, mais c'est le commencement du discours chrétien d'ailleurs. Et seulement, ça peut être dit comme ça. Mais notre problème, c'est la solution du problème moral. Et cette attitude de vertu donne-t-elle une solution au problème moral? C'est la question que je pose. S'il n'y a pas réciprocité, et c'est un problème difficile, parce que s'il y a réciprocité, alors il y a intérêt. Ce n'est plus la vertu gratuite. Oui, c'est clair. Seulement, il s'agit de savoir si le problème moral a une solution. Et si la solution qui est proposée, c'est en fin de compte le suicide glorieux sans suicide, c'est suspect. Est-ce que c'est clair, Jésus?
Ce n'est pas une vertu, mais c'est un retrait, un genre de
solution. Écoutez, si on fonctionne comme ça, il s'agit du programme chrétien. Mais ce que j'ajoute, c'est que le programme chrétien reste un programme théorique, une déclaration d'intention, et qu'aucune société chrétienne n'a vécu ainsi. Et je crois, j'ajouterai, que les philosophes juifs qui parlent ainsi ne vivent pas ainsi. Je ne sais pas comment dire ça autrement.
Que...
Mais il y croit quand c'est les autres qui se font tuer. Je ne sais pas comment dire ça. Bon, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des héros de cette conduite, mais ils ne sont en général pas philosophes. Bon. Mais je voulais dire, une fois nous parlions de cela, et dans la salle, il y a quelques séminaires, une dame d'ailleurs, je crois qu'elle dit quelque chose de très profond, de très exact. Elle dit que le chrétien dit qu'il donne sa vie pour autrui. En réalité, lorsqu'il le fait, il donne sa mort pour autrui. Et il me semble qu'il y a là quelque chose de très profond. Bon, mais le philosophe qui dit que, il ne donne même pas sa mort. Et je suis désolé d'être un peu, comment dire, cause de scandale. Mais il y a ici une pudeur sociale qu'il faut un peu une fois dévoiler. Il y a quelque chose de pas clair là derrière, quelque chose de trouble. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors c'est pourquoi je vous donnais en général l'exemple des existentialistes. Dans nos études talmudiques, on rencontre des controverses entre les sages d'Israël et des philosophes grecs. Et nous avons un certain nombre de sources dans le Talmud qui nous indiquent comment les sages du Talmud définissaient ce qu'est un philosophe. Alors il y a une distinction de nature entre les philosophes juifs et les philosophes non-juifs. Les philosophes non-juifs sont appelés des sages, ça a l'air paradoxal, alors que les philosophes juifs sont très suspects pour les sages du Talmud. Je devrais prendre plus de temps pour vous parler de ça, je ne sais pas quelle heure il est. Et j'ai que 2 minutes. Je pourrais même vous donner les références si cela vous intéresse. Il y a une Gemara dans la Gemara de Shabbat et une Gemara dans la Gemara de Avodah Zara. Alors Avodah Zara, ça doit être 54b et dans Shabbat, ça doit être 114a. Mais sous toute réserve, ok? Et vous me rappellerez ça au prochain cours que je vérifie. Et alors dans la Gemara de Shabbat, le mot de philosophe est traduit par hérétique. Hérétique. Dans la Gemara d'Avodah Zara, l'expression philosophe au pluriel est traduit, c'est Rashi qui traduit, par Chachmei Ota'olam, les sages des nations. Il semble qu'il y a une contradiction dans le commentaire de Rashi lui-même. Alors je vous donnais un peu la clé, c'est que dans la Gemara de Shabbat, on définit la philosophie dans le principe de négation de la révélation. Alors pour un juif, nier la révélation, ça signifie qu'il est hérétique, tout simplement. C'est clair, mine en hébreu. Dans la Gemara d'Avodah Zara, on définit les philosophes des nations en tant qu'ils nient la révélation idolâtre. Alors on les appelle des sages. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon. Apikoros, c'est hérétique, c'est autre chose. Et il y a une différence entre l'apikoros juif et l'apikoros non-juif. Attendez, j'ai pas vu. Vous allez me faire oublier de quelle était la question de départ. Alors, dans la Gemara de Shabbat, il y a un Tosfot sur Rashi. Vous savez qui est Tosfot? C'est les élèves de Rashi qui ont glosé le commentaire de Rashi. Alors, Tosfot cite l'explication de Rashi, mine, et puis il dit, et nous avons entendu qu'en grec ça signifie amant de la sagesse, Oev Ahorma, l'étymologie grecque. Mais il dit qu'on peut aussi le lire par un anagramme araméen, Pila Saba. Et Pila Saba, ça veut dire en araméen un vieux farceur. Okay. Tosfot, très très gravement, explique que philosophe, c'est Pila Saba, un vieux farceur. Alors, c'est un peu cela. J'ai un peu compris cela dans une interprétation du sourire du Bouddha. Oui, à peu près le sourire du Bouddha. Comment, qu'est-ce qu'il dit ce sourire-là? Tu veux savoir? Eh bien, il n'y a rien à savoir. Et comment? La Joconde, c'est autre chose, peut-être le sourire de la Joconde. C'est le clin d'œil d'une femme enceinte, disent les commentateurs. C'est le sourire d'une femme fécondée. Mais on a trouvé, j'ai vu ça, je ne sais pas où et quand, mais récemment, que des anciennes ébauches de la Joconde montreraient qu'il s'agit d'un visage masculin habillé en femme, et que ce serait ce sourire ambigu-là. C'est possible. C'est possible aussi. Mais ça peut se rattacher au sourire du Bouddha, finalement. Tu veux savoir si je suis un homme ou femme, tu ne sauras pas. Voilà, attendez, laissez-moi finir, je vais oublier. Je veux dire, ça m'a beaucoup préoccupé, cette analyse des notes de Rachid Tosfot sur la notion de philosophe. Je crois que cette définition négative, ça consiste, par exemple, Pila Saba, un vieux farceur, ça consiste à dénoncer une contradiction interne dont la description de tout à l'heure était un exemple. C'est-à-dire se mettre à l'abri d'un abri et dire il n'y a pas d'abri. Bon, est-ce que c'est clair? J'ai une fois une image qui me revient. J'avais vu dans une collection de gravures humoristiques anglaises, vous savez, l'humour anglais est très caractéristique, cette gravure-là, un bébé assis en position de Bouddha, de lotus d'ailleurs, et d'un air grave disant « Ah, mes enfants, la vie, un bébé. » Bon. Alors, quand c'est un bébé qui dit ça, ça fait rire. Quand c'est un vieillard qui dit ça, alors là, ça a un sens. Il a eu l'expérience de la vie, il peut dire à ses enfants, à mes enfants, la vie. Mais il n'y a pas la différence. Alors, je crois que, dans l'adolescence, la conscience philosophique est prise par l'enthousiasme de la découverte de l'autonomie de la pensée humaine et de la découverte du discours de la sagesse. Et puis avec la maturité, le philosophe se rend compte que la sagesse ne lui a jamais parlé, que c'est lui qui parle. Est-ce que c'est clair? Mais s'il continue à faire comme si c'est la sagesse qui parle, c'est la farce. C'est un peu ça que je voulais dire. Ça m'appelle toujours ce vers de Musset. Et je ne vous dirai que ce que Dieu m'a dit. Mais c'est Musset qui parle. Et c'est très beau quand Musset parle.
N'est-ce pas le Talmud qui a qualifié Platon d'éloquiste? Si ma mémoire est bonne, il me semble qu'il y avait une phrase de ce genre dans le
Platon. Je ne connais pas
du
tout.
Platon éloquiste.
Dans le Talmud?
Il me semble souvenir.
Je ne sais pas où vous avez écouté ça, mais si vous pouvez me donner la référence.
Non, je ne suis pas certain, c'était une question.
Ah non, en tout cas, je ne vois pas du tout à vous faire allusion, c'est une surprise pour moi d'entendre ça. Si vous trouvez une référence de ce genre, envoyez-moi un télégramme. Okay. Non, ça n'existe pas.
Et le troisième
rabbi
qui est hérétique, après,
oui.
Quel est son processus?
Alors, son processus, c'est un peu de notre ordre. Peut-être qu'il est assez parallèle à ces préoccupations-là. C'est que il a buté sur le problème de la sanction des vertus. Et que, puisqu'il découvre qu'il n'y a pas de sanction des vertus, donc la Torah ne repose sur rien. Et ce problème de Aher, qu'est Ishar ben Abouya, vous voulez dire. Mais, bon, je vous décris un peu l'épisode. Il y a deux commandements où le salaire du commandement est dit dans le verset. Le respect des parents, afin que ces jours se prolongent. Et lorsqu'il y a le Kansipour, qu'on voit un oiseau couvé sur les... Sur ses petits, alors on renvoie l'oiseau pour prendre les petits. Alors ça nous raconte que Ishar ben Abouya assiste à cette scène. Un père qui demande à son fils monte dans l'arbre pour prendre le nid de l'oiseau et donc renvoie l'oiseau. Alors il est en train d'accomplir les deux commandements pour lesquels la Torah prévoit une récompense afin que tes jours s'allongent. L'enfant tombe de l'arbre et se tue. C'est ainsi que le Talmud raconte. Un exemple d'expérience de la déception quant à cette idée, les vertus ont une sanction, l'allongement des jours en ce cas. Alors il dit, eh bien, tout ça n'a aucune base. Voilà, il a accompli le commandement de respect des parents et de le respect de l'oiseau, et il en est mort. Bon, c'est une déception quant à l'idée d'une Torah basée sur obligations et sanctions. Je reprends le vocabulaire d'hier soir pour ceux qui étaient là, de Mizrahi, sans se rendre compte de quoi la Torah parlait en parlant de cela. La Gemara dit que dans le fond des choses, il ne croyait pas qu'il y ait un monde à venir où il y aura, comme dirait Kant, la régularisation des obligations et des sanctions. Parce que dans ce monde-ci, non. Alors, quand on dit qu'il faut vivre l'éthique, la Torah, sans s'attendre à la sanction, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et alors, ça ne veut pas dire que la sanction n'existe pas. Mais la motivation de la vertu ne doit pas être en vue de la sanction. Mais celui qui dit qu'il n'y a pas de sanction est plus hérétique qu'hérétique. Ça veut dire qu'il fait du monde un monde privé de sens. Je vous dis, on va terminer là-dessus. L'autre, on va s'en occuper lundi. C'est la Mishnah qui est reprise par beaucoup de penseurs contemporains sur cette thèse, la vertu pour la vertu, et qui est dangereusement maniée, faussement maniée. La Mishnah dit ceci. Al tihyu ka'avadim amshamshim et arav al menat lekabel pras. Ella hevu ka'avadim amshamshim et arav shelo al menat lekabel pras. La Mishnah dit, c'est l'antignose de Socho, ne soyez pas comme les serviteurs qui servent le maître en vue du salaire, mais soyez comme les serviteurs qui ne servent pas le maître en vue du salaire. Pourquoi cette forme alambiquée? Pourquoi ne pas dire servez sans que ce soit en vue du salaire? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est pour nous enseigner ceci. Ne soyez pas comme les serviteurs qui servent le maître en vue du salaire. Ils ont raison, il y a un salaire, mais ne soyez pas comme eux. Parce que si vous attendez le salaire que vous ne voyez pas venir, vous allez vous effondrer. La vertu doit être désintéressée. Mais sachez qu'il y a un salaire, le monde a un sens. Est-ce que c'est clair? Soyez plutôt comme ceux qui servent le maître, pas en vue d'un salaire, ils ont tort, il y a un salaire. Mais soyez comme eux. C'est clair? Surprise. Hein? Okay. Sinon, Antirnos ne serait pas exprimé de la manière dont il s'exprime. Attendez, je n'ai pas fini. Alors, on enseigne que Sagdos et Sadok et Baitus, les Sadducéens et Bétucéens, qui sont les élèves de Sadok et Baitus, élèves d'Antignos, n'ont rien compris à cette Mishnah. Ils ont dit, ah, il n'y a pas de salaire, alors on s'en va. Okay. Et j'ai entendu quelqu'un d'autre, je ne vais pas dire qui, dire la chose à l'envers. S'il n'y a pas de salaire, on s'en va. C'est pas la même chose. Okay. Ça veut dire que on n'a rien compris à cette histoire. Il y a un salaire, mais la motivation de la vertu ne doit pas être le salaire. Parce que le salaire, ce n'est pas pour ce monde-ci, tout simplement. D'où le lien avec Asher. Sauf pour un certain nombre de vertus, on a l'usufruit dans ce monde-ci, vous savez ça. Okay. Alors, il est bien évident que les deux choses sont vraies. La qualité bonne de la vertu, c'est de ne pas la pratiquer en vue du salaire. Mais la croyance qu'il n'y a pas de salaire, c'est la mécréance absolue. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Les deux choses sont vraies. La foi, c'est qu'il y a un salaire. La vertu, c'est d'agir pas en vue du salaire. Mais ce n'est pas du tout contradictoire. C'est ça, la tradition juive. Est-ce que c'est clair? Alors dire, faire comme s'il n'y a pas de salaire, mais vivre dans la problématique du salaire, c'est ça la contradiction qui rend impure la philosophie. Qui se formule ainsi. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est-à-dire, on se garantit de toutes les garanties, on dit qu'il n'y a pas de garantie. C'est ça qui est suspecte. Voilà. Je ne sais pas si le temps n'est pas venu où il faut avoir le courage de dénoncer cette impureté, tout simplement.
Les gens prennent des assurances sur la vie.
Oui. Bien. Ah oui, tu avais encore une question.
Je voulais revenir un peu sur la relation sujet-sujet. À propos de l'enseignement autour de Shabbat, si j'ai bien compris, on a dit que cette relation n'existe pas, ne peut pas exister encore dans ce monde-ci, que c'est une relation vers laquelle il faut se contendre.
Qui enseigne ça?
Je n'ai pas en mémoire des sources précises.
Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as entendu à ce sujet? Il est évident qu'on peut faire un parallèle entre la première Mishnah de Shabbat, le pauvre dehors, le maître de maison dedans, oui. Mais au contraire, ça aboutit à la conclusion opposée. La Torah dit « Ve'avta le'acha kamocha ». C'est ça? Ça veut dire « Tu aimeras ton prochain et ça doit être réciproque. Kamocha. Okay » Et lorsque l'amour du prochain est réciproque, le problème moral est résolu. Et c'est l'épreuve du couple dans le mariage. qui est le témoin de la relation avec autrui. La Gemara, je vous citais ça, on s'arrête là. La Gemara enseigne dans Kiddushin qu'il faut que le fiancé connaisse sa fiancée avant le mariage. Dans le rite ashkénaz, on ritualise ça par le fait que le fiancé lève le voile de la fiancée avant le mariage. Alors c'est bien elle. Bon, pourquoi dit la Gemara qu'il ne vienne pas dire après « c'est pas elle que je voulais » Or la Torah a dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Oui, à propos de quoi ce verset de « tu aimeras ton prochain comme toi-même » a été résolu. Alors, j'insiste là-dessus, en gros plan, c'est ce que la Torah enseigne. Et Rabbi Akiva dira, c'est le principe essentiel de la Torah, l'amour du prochain en réciprocité. Si on oublie en réciprocité, on est en dehors du judaïsme. Et toute l'histoire du christianisme a fait la preuve que l'amour du prochain sans réciprocité ne résout pas le problème moral. Alors je crois que c'est important de mettre ça en évidence finalement.
Mais est-ce qu'il n'y a pas en corollaire, en plus de cela, le fait de dire et ne crois pas qu'il y arrivera, c'est peut-être à l'état individuel, que tu arriveras à établir, toi, une relation sujet-sujet parfaite.
Ou, je voudrais voir ça. L'exhortation de la Torah, c'est ça que vous devez faire afin que vous perpétuez sur la terre que Dieu vous a donnée. C'est pour ce monde-ci. Okay. Et bien que le salaire de cela, c'est dans le monde à venir, le fait de se maintenir sur terre, c'est pour ce monde-ci. Et je veux dire que là, peut-être, j'ai hésité à formuler cela aussi carrément. Mais je crois qu'il faudrait qu'un jour soit formée une réaction contre cette tendance à faire du discours juif moderne un discours parachrétien. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui. Et en plus, ce qui me frappe, c'est qu'il est en même temps gauchisant. C'est assez frappant. Bon.
Et alors, on va pouvoir amener la morale à la justice.
Eh bien, ce qu'elle est. Au fond, la vraie justice, c'est la réciprocité de l'amour, c'est la réciprocité de la charité. Là, on a appris quelque chose. Okay.
Un petit problème de définition encore. L'éthique, c'est quoi?
L'éthique, c'est la science de la morale. Et je crois qu'il faut faire une distinction entre l'emploi de ce terme en climat grec, en atmosphère grecque et en atmosphère juive. Les juifs disent l'éthique pour dire la morale. En réalité, l'éthique, c'est la connaissance de la morale, c'est la science de la morale. La vertu pour les Grecs, c'est un monde, les Grecs, mais enfin, la vertu pour la thèse grecque que je désigne, c'est connaître la morale, la pratiquer. Vous êtes orgueilleux, ça ne se pratique pas, la morale, ça se contemple. Est-ce que c'est clair? Tandis que pour les Juifs, la morale, c'est pratiquer la morale. Voilà la différence. Parfois. Mais il y a de ça. Alors, Shabbat Shalom et à lundi. On y va.